On a parlé vraiment que chaque croyant est dans le plan de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et dans ce plan, bien sûr, il y a des moments que c'est vraiment dur, que ça cogne dans notre vie. Et je voudrais lire avec vous un passage dans la première lettre de Corinthiens, au chapitre 18. Chapitre 1, versets 18 à 31. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, ce matin, quelques versets. Je voudrais avant tout remettre ces versets dans leur contexte. Il est important de remettre ça en ordre. On sait très bien que cette église de Corinthe a énormément de problèmes. Mais Paul aime cette église. Si Paul devrait être ici aujourd'hui en Europe, je crois qu'il aimerait l'église de Jumet. Il y a cette église où il y a probablement, il allait avoir quelques divisions. Ces divisions commençaient par trois groupes ou quatre groupes de personnes. Le premier groupe se disait, moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Céphas, qui est Pierre. Et d'autres disaient, moi je suis pour Paul. Et il y a une quatrième qui disait, pour Christ. Et Paul doit rectifier pour ne pas avoir de division. C'est comme si aujourd'hui, on dit dans cette église, il y a un groupe là pour Mehdi, l'autre groupe pour Jean-Pierre, là pour Benoît et là pour Gino. C'est vrai que nous avons parfois un peu plus d'affection avec l'un ou avec l'autre, mais ça peut causer des problèmes, notamment des divisions. Et c'est pourquoi Paul dit, est-ce que Christ est divisé? Non. Est-ce que moi, Paul, j'ai été crucifié sur la croix? Non. Alors Paul corrige pour toutes ces personnes qui commencent à créer des troubles dans l'Église, à faire des divisions. Et voilà qu'on arrive maintenant dans les versets 18, et vous lirez chez vous, ça continue jusqu'au chapitre 2, verset 15. Il y a un autre problème, c'est la sagesse du monde. Malheureusement, dans l'église de Corinthe, il y a des personnes qui sont rentrées avec leur esprit de philosophie. Et là aussi, il peut avoir des divisions. On doit savoir que les Grecs sont fous de la philosophie. Ils aiment les Grecs. Les Grecs admirent les gens qui parlent avec sagesse. Mais c'était une sagesse de chair. Notamment, ils voulaient expliquer l'existence de l'être humain et leur destinée. Où va l'homme et la femme? Mais il trouvait également que le message de l'apôtre Paul, ce message de l'évangile, était trop simple. C'est pourquoi Paul dit dans ce verset 18, car la prédication ou la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui mettent leur confiance à leur propre sagesse humaine, ils périssent. Oui, périssent, décrit très bien, c'est ceux qui rejettent l'évangile de Christ, la croix de Christ, l'œuvre du Christ. La prédication désigne toute la croix. Le message de l'évangile et ainsi l'œuvre de l'évangile. La sagesse humaine ne peut pas comprendre la croix, ni le message et ni l'œuvre de l'évangile. Voir un homme qui se dit fils de Dieu mourir sur une croix, ressusciter après 3 jours et je vous pardonne les péchés. Impossible de comprendre cela avec une sagesse humaine. Impossible de comprendre que Jésus a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5 000 hommes. Ces sages peuvent dire, oui, il peut nourrir 100 personnes, mais 5 000 hommes. Jésus a guéri plusieurs malade et ressuscité. La sagesse humaine ne peut pas comprendre cela. Aujourd'hui encore, on se pose la question, comment Jésus a pu marcher sur l'eau? Et ces hommes se demandent comment Jésus a pu faire ça. C'est pourquoi il leur dit, où est le sage? Est-ce que Dieu a-t-il consulté les sages avant de réaliser son plan de salut? Paul le rappelle. C'est déjà dans l'Ancien Testament qu'il est dit que Dieu détruira toute la sagesse humaine. Le sage, avec toute sa sagesse, n'a pas pu connaître Dieu. Mais Dieu, lui, a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs, eux, demandent des miracles. Mais vous, les Grecs, vous cherchez des preuves. Mais un seul message est dit et redit, c'est le message de la croix. Paul ne change pas, il reste ferme. Il reste avec ce message de la croix, de l'évangile. Et l'Église doit rester ferme. Ils ne vont pas commencer à plaire l'un ou l'autre pour changer le message. Voilà à peu près jusqu'au verset 25. Et nous voyons dans ce verset 26 et 27 que je vais relire. C'est là où je voudrais vraiment mettre l'accent ce matin. Il est dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Si vous avez bien remarqué, Paul dit « frère ». Il est en train d'écrire à des frères et des sœurs. Regardez, vous avez été appelés dans le plan de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Il vous a choisi, vous. Pourquoi t'a-t-il choisi? Et Paul lui dit, pourquoi vous êtes choisi? Parce que vous êtes sage selon la chair? Ben non. Parce que tu es intelligent, brillant? Ben non. Parce que tu es puissant, fort, courageux? Parce que tu es noble? Ben non. Non. Alors pourquoi t'a-t-il choisi? Pourquoi Dieu a choisi Israël et pas la Belgique? Pourquoi pas l'Italie? Eh bien, il y a un rabbin qui nous dit pourquoi. Il a choisi Israël. Et il nous explique, ce rabbin, que Dieu a parcouru toute la terre. Et à un moment donné, il s'arrête et il voit un homme, un Syrien, et il lui pose la question. Toi et ton peuple, veux-tu mes commandements et me suivre? Cet homme assyrien lui dit, Seigneur, qu'est-ce qui est écrit dans tes commandements? Tu ne tueras point. Ah non, ça c'est pas pour moi, et ni pour mon peuple. Dieu s'en va, il parcourt la terre, et il arrive chez des Gaulois, et voit cet homme, et lui dit, veux-tu mes commandements et me suivre? Et ce Gaulois dit, Seigneur, qu'est-ce qui est écrit dans tes commandements? Tu ne convoiteras point la femme de ton voisin. Ah, ça, c'est pas bon pour moi, et ni pour mon peuple. Et voilà que Dieu parcourt encore la terre, et voilà qu'il voit Moïse. Et il dit, veux-tu mes commandements et me suivre? Et voilà que Moïse dit pas, qu'est-ce qui est écrit dans tes commandements? Mais il dit plutôt, combien ça coûte? Les Juifs sont comme ça. Et Dieu lui dit, c'est gratuit. Ah ben, tu m'en donnes deux. Et c'est ainsi qu'il a eu les deux tablettes. C'est une histoire. Pourquoi Dieu a choisi Israël? Dans Deutéronome, au chapitre 7, nous lisons au verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Dieu a choisi un tout petit peuple. Dieu a choisi ce peuple qui va être esclave, qui va être des pauvres pécheurs qui vont se mélanger et commettre des adultères et suradultères. Quelques secondes, mettez-vous à la place de Dieu. Et dans toi-même, est-ce que tu aurais choisi Israël? De savoir que tu sais tout à l'avance, que tu vas savoir que ce peuple va faire plein de bêtises. Est-ce que tu l'aurais choisi? Mais Dieu l'a fait. Parce que Dieu tient ses promesses, et on voit dans la suite, il est fidèle. Ce peuple devait montrer l'exemple à tous les autres peuples. Il devait être la lumière pour toutes les nations. Il devait être le sacrificateur des sacrificateurs, qui veut dire des personnes qui enseignent à tous les autres peuples, qui veut dire aussi qu'ils vont intercéder pour tous les autres peuples. Mais voilà qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour être la lumière du monde et pour être le sacrificateur du monde. Mais Dieu tient sa promesse envers son peuple. Est-ce qu'on prie encore pour le peuple de Dieu? Bien sûr que oui. Alors, pourquoi t'a-t-il choisi? Pourquoi t'a-t-il choisi? Ça va être des paroles qui vont te choquer ce matin, mais tu les as déjà lues et relues. Mais c'est une vérité. Dieu t'a choisi les choses folles pour confondre les sages. Tu sais pourquoi il t'a choisi? Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu sais pourquoi il t'a choisi? Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. C'est des paroles vraiment qui nous mettent mal à l'aise. Mais combien c'est vrai? Est-ce que vous avez déjà remarqué, quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas croyant, de votre foi, tout de suite on vous dit, vous avez besoin de cela parce que vous êtes faible, vous êtes méprisable, vous êtes rien. C'est l'apôtre Paul en quelque sorte qui veut nous dire que nous sommes rien du tout. Et c'est vrai, ces personnes qui nous disent ça, nous le savons, j'étais comme eux. Quand mon frère m'a parlé de l'évangile, je dis, c'est toi qui en as besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Je me sens sage, fort, puissant. J'ai vu un petit jeune qui est rentré chez nous à l'usine, un tout petit jeune qui était là. Et à un moment donné, je vois qu'il est en l'entour de quelques personnes. Et je vais à l'intérieur de ce groupe. Et il parlait de Dieu, mais avec force. Un homme, un ami musulman. Le lendemain, il me voit, il me serre dans mes bras, il me dit, Shalom mon frère. Un tout petit jeune. Dieu choisit ceux dont le monde ne fait aucun cas. Je regardais la demi-finale de la Coupe des Nations. Encore, Gino, tu regardes le football, mais c'est la seule chose où je ne m'endors pas. C'était l'Allemagne-Portugal. Et à un moment donné, moi j'étais sur mon fauteuil en train de regarder, j'appelle Myriam. Elle avec son ordinateur, elle travaille pour l'école, moi je fais le pacha. Et je lui dis, tu vois ce joueur-là, il gagne 300 000 euros par semaine. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à 300 euros par semaine. Lui, il gagne 300 000 par semaine. Je ne sais pas si on réalise. C'est beaucoup. Hein. Mais c'est ma faute parce que je les regarde, ces joueurs-là. Alors, je dis, Myriam, pourquoi Dieu n'a pas fait de moi ou d'autres personnes des grands joueurs qu'on gagnerait 300 000 euros? Mais tous les semaines, j'ouvre une église, une belle église, encore plus belle qu'ici, avec un parking pour Gino réservé. Non, on ferait pas ça. On ferait des dons et on ferait des grandes choses. On est toujours tenté de penser que ce serait merveilleux, une telle personne célèbre devient chrétien. On met en premier rang toutes ces personnes-là, tous les riches, toutes les personnes d'État, ils seront en premier rang. Regardez Jésus. Quand il a choisi ses 12 disciples, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Jésus, il leur dit dans Marc au chapitre 2, au verset 17, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus? Je suis le médecin et c'est les malades qui me demandent de venir. C'est ceux qui reconnaissent leur état de péché et qui ont besoin d'une repentance. Ils veulent changer. Le plan de Dieu, c'est un plan où il choisit des personnes qui sont faibles, méprisables, qui sont rien. Dieu prend ces gens qui n'ont aucune valeur au monde. Regardez quand il a choisi Abraham. On dit toujours, mais Abraham, c'est un grand. Regarde ce qu'il fait. Il va mentir pour pas avoir de problème. Dieu prend des hommes comme ça. Dieu prend David, cet homme qui va commettre l'adultère et un meurtre. Dieu choisit Moïse, qui a des difficultés à parler. Dieu prend Jérémie, qui fait que pleurer. Il prend Pierre, cet homme qui se croit fort et qui va renier Jésus. Il prend Paul, mais Paul, parfois, il n'a pas le talc de parler. Alors tu peux mettre ton nom dans cette liste. Si je devrais mettre mon nom, Dieu connaît mon cœur, combien j'ai difficile, je suis timide, combien je suis comme Abraham pour pas avoir de problème. On infiltre le mensonge. Combien je suis comme David. Combien de personnes on a déjà tué avec nos yeux et commis des adultères. Combien de fois je suis comme Moïse à lui dire, Seigneur, je sais même pas parler. Pourquoi tu me dis que tu dois aller parler? Alors, je suis comme Jérémie en train de pleurer. Combien de fois je suis comme Pierre. J'ai l'occasion de prêcher, lui annoncer la bonne nouvelle et je m'en vais. Je suis en train de le renier. Combien de fois je suis comme Paul? Je ne parle pas avec douceur. Mais Dieu prend ces personnes qui n'ont aucune valeur du monde pour manifester en toi, mon frère, ma sœur, sa grandeur, sa puissance. Et en démontrant que ces personnes qui sont rien, faibles, méprisables, sont quelqu'un avec lui. Et Dieu nous le dit à travers de sa parole. C'est ça que Paul est en train de dire à ses frères et sœurs. Attention avec cette sagesse, vous avez tout reçu, vous n'êtes pas n'importe qui. Et il leur dit dans leur verset 30, je cherchais, j'étais dans Deutéronome. C'était un peu dur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Sagesse, Dieu a remplacé ta propre sagesse humaine avec la sagesse de Dieu. C'est lui qui t'a fait comprendre tout le plan de Dieu, ce qu'il a fait pour toi. Il a mis en toi sa sagesse. Le chrétien peut dire avec sans orgueil, nous sommes sages en Christ. La sagesse, elle est en même temps instantanée quand tu as passé par la nouvelle naissance. Mais en même temps, c'est une sagesse progressive. Mais Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les sages par la sagesse de Dieu. Nous avons reçu la justice de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu as jamais, mais alors là, jamais possédé la justice propre, celle qui vient de Dieu. Quand tu es passé par la conversion, Dieu a fait quelque chose de formidable. Toi qui n'étais pas juste, il t'a rendu juste. Il est venu en toi pour te donner cette justice. Toi qui es faible, toi qui es méprisable, toi qui es rien, tu as la justice de Dieu pour confondre les forts. Nous avons reçu la sanctification. Par nous-mêmes, il est impossible d'être saint. Mais en Christ, il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Tu es saint. C'est vrai que notre corps cherche en tout temps le péché. C'est pourquoi il y a un combat dans notre corps que nous, on recherche la sanctification. Et ça cogne. Nous sommes appelés à combattre ce corps. Mais tu as reçu cette semence incorruptible. C'est la semence de la sanctification. Toi qui es faible, toi qui es méprisable, toi qui es rien, tu es saint. Saint Gino. Nous avons reçu la rédemption qui signifie le rachat. Et ça, j'aime bien Florent Varac, pour ceux qui le connaissent. Il donne un exemple. Te voilà au supermarché avec ton caddie et tu commences à faire les courses et tu remplis ton caddie jusqu'au, tout au-dessus. Et tu arrives à la caisse. Et là, il y en a un qui te dit, « Oh, oh, c'est moi qui paye. » C'est ça, Jésus-Christ, qu'il a fait pour nous. Ton caddie est rempli de péchés. Je crois qu'il est arrivé jusqu'au ciel de péchés. Et te dit, « Oh, oh, c'est que je vais payer pour toi. » Est-ce qu'on réalise que nous avons en nous la rédemption? On a été rachetés. Nous qui sommes faibles, méprisable, rien du tout. Il nous a rachetés. Voilà le plan de Dieu. Il t'a choisi des personnes qu'on considère rien du tout. Nous qui sommes faibles. Pour confondre ceux qui ne le sont pas. C'est les personnes qui restent avec leur propre sagesse humaine. Mais on doit faire attention, mes frères et sœurs, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ces quatre choses que tu as reçues, toi qui es rien, et qui est devenu quelque chose aux yeux de Dieu, n'oublie jamais que tu ne les as pas méritées. Tu ne les as pas gagnées, ni produites en toi-même. Mais c'est la seule. Et la seule prédication, c'est la croix. C'est lui qui te les a donnés. On a parlé de victoire ce matin. C'est la victoire de Jésus qu'il a mis ça en nous. Et je veux terminer par quelques paroles. Il n'y a pas si longtemps, j'ai téléphoné pour avoir du mazout. Et voilà qu'après 2-3 jours, il arrive, cette personne, pour me mettre le mazout. Il commence à remplir. Et voilà que c'est terminé. Et le chauffeur, il me voit en train d'hésiter. Il me dit, il y a quelque chose? Je dis, tant qu'il est bas, le mazout, tu ne sais pas me rajouter encore 100 litres. Bon, il n'y a pas de problème. Il vas-y, il met à son camion 100 litres. Ça va tellement vite, hein, c'est pas comme à la pompe. En quelques secondes, c'est fait. Hein. Et il me voit encore hésiter. Il part à son camion et il revient. Il retire sa pompe. Je fais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et il prend une petite lampe de poche et il met à l'intérieur. Il regarde. Il me dit, mais tu as encore plein de place. Et il me donne la lampe de poche et il me dit, regarde. Et je regardais. Waouh! J'avais jamais vu ça comme ça. J'avais jamais pensé de faire ça. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et souvent, la lumière, elle est sur nous. Et non sur Jésus-Christ. Cet homme, elle était chercher sa lampe de poche pour montrer la cuve. Combien de fois on doit montrer Jésus-Christ? Et ces personnes vont dire, waouh, j'ai jamais vu ça comme ça. J'avais jamais pensé ça de Jésus. Et non fixé sur nous-mêmes, mais sur la croix. C'est ça la prédication. Dieu t'a choisi pour confondre les sages de ce siècle. Dieu t'a choisi pour confondre les forts de ce siècle, afin que eux aussi se disent qu'ils sont rien, mais qu'en Christ, ils peuvent être quelqu'un, ils peuvent recevoir la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, la sanctification de Dieu et la rédemption de Dieu. Alors, vous n'êtes pas rien, vous êtes quelqu'un d'important. Que Dieu vous bénisse.